9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Mon premier invité est l'un des intellectuels les plus influents de notre époque. C'est Christophe Guillouis, l'auteur de La France périphérique. Il vient de publier Le temps des gens ordinaires chez Flammarion. C'est le retour de la France périphérique à l'épreuve de l'épidémie du Covid. On s'intéressera ensuite au délit d'écocide dont les ministres Barbara Pompili et Éric Dupond-Moretti ont annoncé la création pour le début de l'année prochaine. Martha Thorey-Schaube, spécialiste de la justice climatique, nous expliquera ce que cela pourrait changer en un temps où les procès climatiques sont de plus en plus nombreux. Et enfin, on terminera l'émission avec un grand chef d'orchestre, Jean-Claude Casetsu. Bonjour Christophe Guillouis.
Bonjour.
Vous êtes géographe, c'est vous qui avez forgé le concept de la France périphérique, si souvent utilisé depuis par les politiques et les journalistes. Vous publiez à présent Le temps des gens ordinaires aux éditions Flammarion. Vous y racontez comment les classes populaires ou la France périphérique ou les gens ordinaires, quel que soit le nom qu'on leur donne, qui avaient été invisibilisés à la fin du XXe siècle, ont ressurgi soudain avec le mouvement des Gilets jaunes d'abord et puis depuis le début de la crise du coronavirus.
C'est vrai. D'ailleurs, je dirais même que pendant la crise du coronavirus, ils ont été héroïsés. Hein, on les a portés au nu. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs la séquence invisibilisée, ostracisée, puis héroïsée.
Oui, applaudissements pour les caissières, voilà, pour les livreurs, pour les infirmières.
Mais je dis toujours que ça ne sent pas très bon quand vous êtes héroïsé. Hein, c'est pas un très bon signe. Ça sent l'éloge funèbre. Vous voyez, quand les Indiens ont été héroïsés, c'est qu'ils avaient été laminés. Donc, c'est pas très bon signe.
Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas, parce que vous dites dans ce livre qu'au fond, c'est maintenant le temps des gens ordinaires, car ils sont devenus l'opposition. Une opposition qui avait plus ou moins disparu depuis 40 ans que l'idée du « there is no alternative » s'était imposée à tout le monde.
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, les gens ordinaires, ce groupe majoritaire qu'on voit porter la contestation sociale un peu partout dans le monde, hein, sociale et politique, en France, mais aussi en Grande-Bretagne et ailleurs, se sont recomposés. Ils ne se sont pas recomposés avec l'idée d'une conscience de classe, d'une classe ouvrière qui serait maintenant en marche derrière un drapeau, etc. Non, il n'y a pas de conscience de classe, mais en réalité, ce sont des gens, alors on va essayer de les définir, hein, ces petites gens, ces gens qui gagnent moins de 2000 euros, hein, je rappelle que moins de 2000 euros, c'est 80% de la population, et 80%, c'est aussi d'ailleurs un sondage qui est sorti il y a quelques semaines qui nous disait que 80% de la population craignait une explosion sociale. Donc ce sont les mêmes, hein. Ce sont aussi ces 80% qui ont soutenu très fortement le mouvement des Gilets jaunes. Mais là, on a bien un bloc qui s'est recomposé, très vaste, hein. Ça va du salarié du public au salarié du privé, des employés, des ouvriers, des paysans, des ruraux, des gens aussi, des urbains. Et on a là un bloc qui culturellement est en train de peser, et ça je l'observe de plus en plus, y compris dans le champ culturel.
Et depuis la crise du Covid, ce sont bien leurs revendications qui triomphent aujourd'hui, hein, d'après ce que vous dites. La refonte des hôpitaux et des services publics, la réindustrialisation, la sécurité, le local, la solidarité, l'identité, la République.
Complètement. Et ça, c'est assez fascinant. Ils n'ont pas de représentants. Ils sont désaffiliés politiquement. Ils ne sont pas syndiqués. Ils ne pèsent pas dans les médias. Ils ne sont pas représentés par le monde intellectuel ou culturel. Et pourtant, ils sont de plus en plus forts. Et c'est pour ça que j'ai développé ce concept de soft power des classes populaires. C'est un peu ça. On voit que, alors, les élites, j'aime pas tellement ce mot, mais bon, on va dire ce monde d'en haut, finalement s'approprie des demandes auxquelles finalement elles étaient assez rétives ces dernières années. Et vous les avez citées, par exemple la réindustrialisation, par exemple l'idée qu'il faut des services publics sur l'ensemble des territoires. On a même vu surgir les petites villes, les villes moyennes qui, je me souviens de titres dans la presse avec cette idée que il y aurait la revanche des villes moyennes ou la revanche des campagnes, etc., etc.
Ils ne veulent pas faire la révolution, hein, ils veulent affirmer leur existence. C'est une guerre culturelle qu'ils livrent contre les classes dominantes, et ils sont en train de la gagner en plus, d'après vous.
Alors, c'est vraiment ce que j'observe, c'est-à-dire que tous les grands mouvements que auxquels nous assistons aujourd'hui, hein, que ce soit les Gilets jaunes ou les Brexiteurs ou d'autres, ont un commun. Ce commun, c'est sont d'abord des mouvements existentiels. Nous existons, vous ne pouvez pas faire société sans nous, car nous sommes la majorité, et nous avons des revendications très très précises. Et aujourd'hui, ces revendications-là, elles sont indispensables, elles sont incontournables, tout simplement parce que si on ne les entend pas, c'est finalement le monde d'en haut qui va s'écrouler sur lui-même.
Est-ce que vous êtes, Dieu sait si on a cité la France périphérique hein, depuis que vous avez inventé cette expression, est-ce que vous avez toujours eu l'impression d'être compris? Est-ce que quand on vous dit la France périphérique, et on doit le dire à peu près 50 fois par jour dans les médias aujourd'hui, et cela depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous avez l'impression qu'on a bien compris ce que vous écriviez à l'époque?
Non, je crois pas. Je crois que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que enfin, vous savez ça mieux que moi. Il y a les concepts, et puis il y a après la lecture des livres, c'est autre chose. Et ce que j'avais essayé de dire, c'est qu'on était là dans un monde très complexe, et on a essayé de le simplifier au maximum. Et moi, ce que j'essayais de faire, c'était d'indiquer une direction, un mouvement. Et on voit bien que ce qui a été critiqué, c'était l'idée de généraliser. Alors, je dis toujours généraliser, c'est conceptualiser, et conceptualiser, c'est penser. Donc on était bien là dans quelque chose qui était très visible pour moi parce que je travaille sur des cartes. Mais évidemment, et ça on voit bien la technique, les politiques ont pioché. Ils ont pioché en fonction de leur marketing, j'allais dire, habituel. La droite piochait des thématiques plutôt de identitaires, et la gauche des thématiques plutôt sociales. Or, je dis qu'à l'intérieur de ce groupe majoritaire, il n'y a pas d'opposition entre le social, le culturel. Il y a un tout. Les gens ne se lèvent pas le matin en disant tiens, je pense à la question identitaire, ou je pense à la question sociale. Non, les individus sont complexes, ils pensent à la question sociale, ils pensent à la question économique, et ils pensent à la question culturelle. Et tout ça forme aujourd'hui un bloc. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de débouché politique. Mais il n'empêche, il est là, et bien là, et pour les décennies à venir.
Mais on va reparler des débouchés politiques. Mais il y avait aussi, dans la compréhension qui a été faite de la France périphérique, on y voyait que quelque chose de géographique et uniquement géographique. Ça ne l'était pas.
Bien sûr que non. C'est-à-dire que. Alors c'est paradoxal, je vais dire quelque chose d'assez paradoxal pour un géographe, je ne crois pas au territoire, je crois aux gens qui vivent sur les territoires. C'est-à-dire que j'arrive à dessiner une géographie sociale en partant des gens. En cela, je m'inscris dans la tradition des géographes depuis toujours, à savoir la géographie, elle est d'abord humaine. Et c'est bien à partir d'une répartition dans l'espace des gens ordinaires que j'ai élaboré cette géographie. Et il s'agissait d'identifier quoi? Il s'agissait d'identifier un événement absolument majeur, et dont les conséquences politiques sont en train de se voir, qui est la disparition de la classe moyenne occidentale. Alors pourquoi je dis occidentale? C'est-à-dire que on pourrait dire la classe moyenne, c'est dans le monde entier. Non, la classe moyenne occidentale, majoritaire, ce concept où finalement tout le monde pouvait se reconnaître, hein, de l'ouvrier au cadre, est aujourd'hui n'est plus pertinent pour dire le monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette mondialisation, en gros cette division internationale du travail, qui fait qu'aujourd'hui l'ensemble des pays occidentaux ont enregistré une désindustrialisation massive, avec cette idée finalement que tous ces gens ne font plus tourner la boutique. Nous n'avons plus besoin d'eux pour faire tourner la boutique. C'est un événement absolument majeur. Et moi, je suis toujours frappé de voir des discours politiques qui ne prennent pas en compte cet événement. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans développer des initiatives à partir de ce fait absolument culturel, absolument majeur, c'est-à-dire que l'ensemble des catégories qui hier constituaient le socle d'une classe moyenne qui portait la société sont aujourd'hui de plus en plus mis à l'écart. Et la géographie était un révélateur.
Mais
parce
en
que
Occident
quand je dis,
seulement, comme vous le
pardon.
disiez, mais seulement en Occident, parce qu'ailleurs, en
Bien
Chine, en
sûr,
Inde,
puisque.
on a vu l'apparition, au contraire, d'une classe
Exactement.
moyenne.
Vous
Mais je vous
avez.
interromps, Christophe Guillouis, on fait une pause, on se retrouve tout de suite après, on continue.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Et nous retrouvons Christophe Guillouis qui publie Le temps des gens ordinaires aux éditions Flammarion. Alors, on reprend hein, là où je vous avais interrompu. la disparition des classes moyennes, la sécession des élites, allez-vous me dire, même si vous n'aimez pas le mot élite.
Oui, oui. Alors, donc la disparition de la classe moyenne occidentale, l'émergence d'une classe moyenne chinoise, indienne, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un effet bascule. Hein, et ces emplois ne reviendront pas. C'est bien ça qu'il faut bien il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin de ces catégories-là pour créer de la richesse. Parce que quand on regarde la création de richesse ces 30-40 dernières années en Occident, en Europe occidentale ou aux États-Unis. Cette création de richesse, elle n'a pas cessé d'augmenter. Nous ne sommes pas tiers-mondisés. L'immense question est celle de la répartition des richesses. Nous avons un modèle qui est, on va dire le modèle néolibéral pour aller vite, qui est de plus en plus inégalitaire. Or, qu'allons-nous faire de ces catégories qui n'ont plus, objectivement, qui ne sont plus intégrées économiquement. Et ça, on le voit parfaitement grâce au territoire, c'est-à-dire que les gens ordinaires, les catégories populaires, vivent aujourd'hui sur les territoires qui créent le moins d'emplois. Hein. Aujourd'hui, 2/3 du PIB français, par exemple, est créé dans les grandes métropoles. C'est un peu la même chose aux États-Unis, c'est évidemment la même chose en Grande-Bretagne, avec ce grand Londres. Et ça pose quand même une question presque philosophique, culturelle, mais absolument majeure. Question qui est finalement relativement peu abordée par les partis politiques. Et c'est pas un hasard, parce que nos grands partis politiques traditionnels, hein, que de gauche ou de droite, ont été créés finalement pour représenter cette classe moyenne, qui n'existe plus. Donc ce sont des partis de classe moyenne qui ne représentent pas l'ensemble de ces catégories qui se sont désaffiliées. Et là, on a un immense problème, c'est que le modèle économique, certes, crée de la richesse, mais ne fait pas société. Et on rejoint la grande théorie de Christopher Lasch, qui avait vu à la fin des années 80 la sécession des élites. Et alors lui, il pensait finalement à une petite fraction de la société. Et en réalité, on s'est rendu compte, et là la géographie nous indique cela, qu'il y a eu une sécession du monde d'en haut tout entier. C'est-à-dire que c'est pas seulement les élites, ce sont aussi les catégories supérieures, celles qu'on va retrouver dans les grandes métropoles. Et les grandes métropoles, on pourrait se dire... Et c'était un peu l'idée de Macron. Elles vont devenir la locomotive, hein, le premier de cordée qui va entraîner tous les autres territoires. Ça ne s'est pas passé comme cela. Les grandes métropoles aujourd'hui sont devenues, ce que j'explique un peu partout, les grandes citadelles médiévales du XXIe siècle. Ce monde est absolument fermé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que ce monde fermé des métropoles se vend comme le monde ouvert. Hein, c'est tout le paradoxe.
Mais arrêtons-nous Paris,
par
un
exemple,
instant.
C'est la grande ville ouverte. Pardon.
Arrêtons-nous un instant sur les débouchés politiques. Vous en parliez, et une des idées les plus originales de votre nouveau livre, Le temps des gens ordinaires, c'est que on croit que ce sont les populistes qui manipulent le peuple, et vous dites pas du tout, c'est le peuple qui manipule des politiciens comme Donald Trump, comme Boris Johnson, comme Marine Le Pen, et peut-être aujourd'hui comme Emmanuel Macron, pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est leur manière à eux de casser le jeu politique traditionnel, qui ne tient plus compte de leurs vœux, au fond.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils ne peuvent pas faire sans eux. Vous ne pouvez pas faire de la politique en laissant de côté la majorité. C'est impossible. C'est pour ça que je dirais pas qu'ils manipulent le monde d'en haut, mais qu'ils se servent de ce qu'ils ont sur le marché. Et ils n'ont pas grand-chose sur le marché. Hein, ils ont l'improbable Trump aux États-Unis, donc un type assez bizarre quand même, hein, qui sort de New York d'ailleurs, de l'hyper-élite, d'un milliardaire qui vient de l'hyper-élite américaine. Ils ont plutôt un intellectuel hein, en Grande-Bretagne, un Johnson, et ils ont en France Marine Le Pen ou d'autres, et ils vont se servir de ce que j'appelle ces marionnettes populistes pour dire nous existons. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre le positionnement de ces gens ordinaires. Ils ne sont pas, parce que ça, l'idée qu'ils sont manipulés, c'est évidemment derrière, il y a un immense mépris de classe. Les gens décodent parfaitement les discours, ils décodent parfaitement aujourd'hui ce qu'on leur dit. Ils savent aujourd'hui, par exemple, quand Macron explique, ou un Bruno Le Maire, qui a tenu un discours très, très, très souverainiste d'ailleurs, qui proposait la réindustrialisation des territoires, etc. Ils savent très bien décoder. Ils savent très bien ce qu'est le marketing politique. Mais il n'empêche Ce sont des gens qui pèsent aujourd'hui, qui pèsent dans le débat, qu'on le veuille ou non. Et les thématiques qu'ils portent depuis, non pas hier, mais depuis 30 ans, eh bien, elles tendent évidemment à imprégner le discours de plus en plus du monde d'en haut. La question, évidemment, c'est la sincérité des gens qui vont porter ces discours. Mais il n'empêche, sur le moyen terme et sur le long terme de toute façon, et si on souhaite faire vivre la démocratie, parce que ce que je dis quand même tout bêtement, qu'il faut réintégrer la majorité des gens ordinaires dans le champ démocratique. Hein, c'est assez bête. Hein, et pour cela, il faut que ces élites, ces catégories supérieures aillent à la demande de ces catégories. Et j'allais dire encore plus maintenant, et notamment après cette période de crise sanitaire, où les inégalités qui étaient déjà là, évidemment, hier, ne vont cesser de se renforcer. Et là, il y a bien un décodage à faire sur ce qu'on est en train de vivre. Hein. Vous avez vu pendant la période de confinement, les mêmes qui nous expliquaient que le modèle était formidable hier nous ont décrit le monde d'après. Hein. C'était les Attali et compagnie nous ont expliqué qu'ils avaient compris et que voilà, on repartait sur autre chose. Il y a eu aussi cet enfumage fantastique, c'est cette théorie un peu vaseuse qui nous expliquait que les gens allaient quitter les grandes métropoles, hein, les Parisiens vont s'installer dans zone rurale et grâce à ça, les gens vont pouvoir vivre. J'ai envie de dire, je me fiche de savoir qu'un bobo parisien va s'installer ou non dans la Creuse. Déjà, il va pas s'y installer, hein, il va éventuellement acheter une résidence secondaire si ce n'est pas déjà le cas. La vraie question, elle est le modèle économique sur ces territoires-là. Donc, derrière, évidemment, ces demandes, et pour y répondre, il faut évidemment plus d'investissements publics dans l'ensemble de ces territoires, il faut une grande politique d'aménagement, etc., etc. On sait ce qu'il faut faire. Mais pour cela, il faut convaincre et peser, et c'est ce que sont en train de faire ces catégories.
Merci Christophe Guilluy. Votre nouveau livre s'intitule donc « Le temps des gens ordinaires » et il vient de paraître aux éditions Flammarion. Et on parle dans un instant des nouveaux délits d'écocide avec Martha Toreschaub.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et la ministre de la Transition énergétique, Barbara Pompili, ont annoncé cette semaine la création d'un délit d'écocide pour punir les atteintes les plus graves à la nature. Martha Toreschaub, bonjour. Êtes juriste, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes directrice du réseau Droit et Climat et vous venez justement de sortir aux éditions du CNRS Justice climatique, procès et action. On est en plein dans le sujet. Alors, ces avancées qualifiées d'importantes annoncé par nos deux ministres. Il s'agit d'un délit, si l'on pollue, même par imprudence, qui se montrait à 3 ou 10 ans de prison et à des amendes importantes, hein, jusqu'à 4,5 millions d'euros. Et puis un délit, si l'on met l'environnement en danger, avant que la pollution se produise, donc, et qui serait passible d'un an de prison et de 100 000 euros d'amende. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'avancées importantes?
Le délit de pollution, il vient en complément du délit qui existait déjà avant et qui concernait uniquement la pollution des sols. Et maintenant, ça va concerner aussi l'eau, l'air. Donc, c'est du neuf avec de l'ancien. Et c'est quand même très bien, c'est bienvenu.
Et le délit, si l'on met l'environnement en danger avant que la pollution ait lieu?
Alors ça, c'est effectivement assez nouveau parce que c'est d'une certaine manière une imprudence. C'est un délit d'imprudence par rapport à l'environnement, ce qui n'existait pas véritablement en tant que tel avant. C'est une sorte de prise en compte du risque qu'on peut causer à l'environnement avant même qu'il y ait un dommage. Donc ça, c'est assez novateur.
Alors, c'était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat hein, de créer un crime, demandait-elle, un crime d'écocide. Et certains, d'ailleurs, se plaignent parce qu'ils voulaient en faire l'équivalent d'un crime contre l'humanité ou d'un génocide. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que la Convention citoyenne proposait la création d'un certain nombre de délits. Et le délit d'imprudence ou des mises en danger, il a été entendu, donc il va être créé. Après, la Convention citoyenne proposait également un crime écocide, ce qui n'a pas été repris. Les raisons qui ont été données, c'est qu'un crime d'écocide, ça pourrait être anticonstitutionnel. C'est ce qui a été mis en avant par Madame la ministre Barbara Pompili, puisqu'il n'est pas suffisamment bien défini. Après, on peut discuter effectivement sur quelle définition lui donner, peut-être éventuellement dans le futur ou même dans le cadre international, ce qui serait encore plus utile.
Ce qu'on comprend bien en lisant votre livre, Martha Torre-Schaub, Justice climatique, procès et action, c'est que le dérèglement climatique a d'abord été une question scientifique, puis politique et économique, c'est maintenant une question juridique. Mais est-ce que ces avancées concernant la pollution vont permettre d'y faire entrer justement une forme de justice climatique ?
Ça dépend aussi de ce qu'on entend par justice climatique, hein, parce que c'est une acception qui est quand même assez protéiforme. Donc justice climatique dans le sens qu'il n'y aura plus d'injustice créée par le changement climatique, ça c'est plutôt aussi la justice sociale. Donc il va falloir avancer dans ce sens. Il y avait déjà un rapport du CESE il y a 3 ans, très intéressant sur ces questions. Justice climatique dans le sens de faire des procès ayant pour objet la lutte contre le changement climatique, là oui, on avance. Et avec ces 2 délits qui vont être créés, il peut y avoir des ouvertures. Mais il faudra aussi quand même que la jurisprudence évolue petit à petit en fonction de ces 2 nouveautés. C'est donc une question quand même de temps et d'adaptation aussi de la part des magistrats et de la part des acteurs dans un procès.
Dans votre livre, on voit bien que les litiges ayant pour objet le changement climatique se sont multipliés dans le monde. Hein. Vous en répertoriez 900 procès climatiques en tout en 2010. Alors en France, ça existe déjà ?
Alors en France, il y en a plusieurs des procès climatiques qui sont en cours et il y en a eu un même, celui de l'affaire de la commune de Grand-Synthe, qui a été, la décision a été rendue la semaine dernière, jeudi dernier, par le Conseil d'État. Et il y a une affaire pendante qui est la fameuse affaire du siècle et qui est, on attend encore que le tribunal administratif de Paris rende un jugement. Et par ailleurs, il y a un certain nombre des débuts d'actions possibles contre certaines entreprises qui travailleraient dans le secteur des fossiles et qui pourraient donner lieu effectivement à des nouveaux contentieux en France.
On se retrouve dans 2 minutes avec Martha Torre-Schaub.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Martha Torre-Schaub, la France a déclaré en juin 2019 l'état d'urgence climatique. Est-ce que c'est pour faire joli ou est-ce que ça peut avoir des conséquences juridiques, que ce soit des libertés réduites ou des contraintes fortes, comme l'état d'urgence sanitaire, par exemple, l'a rendu possible ?
Alors, j'appelle de mes voeux à ce que ce ne soit pas uniquement joli, même si c'est vrai que c'est quand même assez joli. Non, je pense que déclarer l'état d'urgence climatique, ça va entraîner une action. C'est en soi symbolique, c'est très fort, mais ce n'est pas uniquement fait pour rester sur le papier. C'est pour être suivi, d'un plan d'action, d'une vigilance accrue, d'une planification, d'une action climatique plus poussée, plus ambitieuse. Et c'est comme ça que ça a été amorcé par le Parlement européen et par aussi le Royaume-Uni qui a également déclaré un état d'urgence climatique. Et après, il y a plein de villes aussi, y compris en France, qui ont déclaré cet état. Donc je pense que c'est une manière de dire « on va faire quelque chose ».
Mais par exemple, un pays comme la France a signé les accords de Paris, mais a-t-elle des obligations légales de baisser ses émissions de gaz à effet de serre ?
Ah mais bien sûr, la France elle a des obligations légales parce que, et un, elle a ratifié l'accord de Paris, mais également elle avait déjà ratifié la convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques en 92 et elle avait ratifié le protocole de Kyoto en 97. Donc en fait, la France, elle avait déjà dès par le droit international, elle s'était engagée, en signant des conventions internationales, à intégrer dans son droit national un certain nombre des questions climatiques qui sont plus ou moins contraignantes, mais qui sont quand même des obligations et des objectifs, y compris aussi par rapport aux engagements dans le cadre de l'Union européenne.
Aux Pays-Bas, par exemple, vous racontez le cas d'une association, Urgenda, qui a obtenu devant les tribunaux que les Pays-Bas baissent leurs émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ce serait possible en France ?
Je pense que ça serait possible. Avec la décision là, qui a été rendue par le Conseil d'État la semaine dernière dans le cas de la commune de Grand-Synthe, c'est déjà une amorce, puisque le Conseil d'État pose dans sa décision le fait que le gouvernement a 3 mois pour rendre des informations complémentaires concernant sa trajectoire et les actions qui sont menées pour arriver à certains objectifs auxquels la France est engagée. Donc je pense que, d'une certaine manière, on peut avoir des décisions qui ne sont peut-être pas exactement comme la décision Urgenda, parce que chaque pays, chaque État a sa manière de faire le droit différente, mais on peut avoir des décisions comme ça en Europe très intéressantes.
Et contre l'Union européenne, on le pourrait ?
Alors, contre l'Union européenne, il y a une amorce d'action qui s'appelait le People's Climate, et qui était porté par plusieurs pays, par des jeunes aussi. Il y avait aussi des personnes en France, des paysans et d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture qui appuyaient cette action, qui n'a pas abouti pour le moment.
Et contre les entreprises, alors, je crois qu'il y a une procédure en France contre Total. Aux États-Unis, il y en a contre Exxon, contre Mobil, contre Chevron. Comment ça se passe et qui peut porter plainte ?
Les Pays-Bas, je crois qu'il y aura aussi une contre Shell, c'est possible, hein. J'avais vu passer ça. Oui, donc c'est un peu ce qu'on appelle les carbon majors, donc les grandes entreprises qui travaillent dans le fossile, un peu à travers le monde, qui sont des entreprises multinationales, transnationales. On va voir où tout ça en est. En Californie, c'était plusieurs villes hein, qui portaient... plaintes qui demandaient des préjudices et des réparations à un certain nombre d'entreprises américaines, transnationales. En France, contre Total, pour l'instant, c'est au stade des requêtes et des demandes aussi, des modifications du plan de vigilance, etc. Tout ça, ça demande un suivi.
En France, il y a la loi sur le devoir de vigilance qui date de février 2017. Vous en parlez dans votre livre. Vous dites que là, la France est pionnière. Vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit ?
Alors, effectivement, la France est pionnière par rapport à ça. Il y a peut-être une directive au niveau européen qui se prépare et qui sera très inspirée de la loi française. Donc, c'est une loi qui pose... une obligation pour certaines entreprises, pas toutes, celles qui ont des activités, je dirais, les plus importantes, avec un chiffre d'affaires plus important, et qui ont des filiales aussi dans différents pays, mais dont la société mère est en France ou française, elles ont l'obligation de présenter dans leur plan de vigilance la manière dont elles vont faire face aux risques climatiques. Donc, on leur demande de montrer un peu patte blanche, je dirais, par rapport à la question du risque climatique, au moins qu'elles montrent de quelle manière elles envisagent ce risque-là.
Est-ce que le droit, puisqu'on voit bien que maintenant c'est le droit qui va être au centre de la lutte contre les dérèglements climatiques, est-ce que le droit n'est pas plus révolutionnaire que tout ?
Finalement. Je crois que le droit a toujours été quand même à la pointe d'un certain nombre des réformes. On peut parler peut-être des révolutions, mais des manières peut-être prudentes, parce que pour l'instant, il y a plus de procès qui n'aboutissent pas que des procès qui aboutissent. Mais c'est vrai que le droit est novateur, innove, et il porte aussi quand même les demandes de la société civile. Et ça, c'est très, très fort aussi. Comme, je dirais, comme outil aussi pour la société.
Merci Martha Thorey-Chaube. Justice climatique, procès et action, c'est le titre de votre tout nouveau livre qui vient de sortir aux éditions du CNRS. On se retrouve dans un instant avec un chef d'orchestre, Jean-Claude Casadesus.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Jean-Claude Casadesus.
Bonjour, cher monsieur Taddeï.
Vous avez été à la tête de l'Orchestre National de Lille pendant près de 40 ans. Vous avez été invité dans le monde entier à diriger des orchestres prestigieux. Et vous sortez chez Evidence le 11 décembre prochain Le Chant de la Terre de Mahler. En version originale, ça donne Das Lied von der Erde. Un disque que vous avez enregistré en concert avec l'Orchestre National de Lille. C'était il y a combien de temps ?
Écoutez, c'était en 2008 en fait. Oui. Il n'était pas question d'ailleurs de faire un disque. Mais il faut dire que cette exécution live, comme on dit, a été sans un microbe et que quand je l'ai réécouté, je me suis dit que ce chef-d'œuvre peut-être méritait une plus grande audience.
Moi, en vous invitant, je me disais, le confinement, ça doit être terrible pour un chef d'orchestre. Un pianiste peut toujours jouer du piano, mais un chef, qu'est-ce qu'il fait enfermé chez lui ?
Écoutez, ma hantise, c'est le ramollissement cérébral. Parce que c'est vrai que je fais du jogging sur mon balcon, que je suis enfermé depuis un certain temps, que 20 concerts et 9 programmes ont été annulés. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et je pense surtout aux jeunes qui sont encore plus impactés. Mais le problème, c'est ça. Alors, il y a Netflix, c'est formidable, il y a des belles séries, mais le cerveau et les neurones ne travaillent pas exactement de la même façon.
Et le bras ne travaille plus.
Le bras, c'est le domestique de la pensée. Si la pensée est un peu aride, le bras, effectivement, vous savez, il peut être complètement inhabité, le bras.
Mais vous ne travaillez pas, vous ne répétez pas, vous ne pouvez pas, j'imagine.
Ah, je ne peux pas répéter, je peux étudier des textes. Mais vous savez, j'avais étudié 9 programmes que je ne dirigerais sans doute pas. C'est un peu comme un comédien qui apprend une tragédie de Racine ou de Corneille et qui n'aura pas l'occasion de la dire. Cela dit, voilà, il faut cultiver l'espoir de jours meilleurs. Hein. Comme on dit, il faut donner à l'avenir de notre espérance l'espoir d'une petite lueur qui brille au fond du tunnel.
Eh bien, voilà une petite lueur. On écoute un extrait du Chant de la Terre. Jean-Claude Cazadesu, on n'arrête pas de parler des salles de cinéma, des théâtres, on ne parle jamais des salles de concert.
Alors, il paraît que nous sommes inclus dans cette définition, mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du coup. La musique symphonique en France, elle est un peu marginalisée. Alors, j'entends depuis des années dire « Oh, c'est élitiste !» Oui, toute ma vie, depuis des années, j'ai lutté pour que cet élitisme soit l'élite du cœur et qu'on ne vive que dans le partage, qui est aussi un hommage rendu à la dignité de ceux qui pensent que cette grande musique n'est pas pour eux.
Mais justement, quand on écoute un grand orchestre comme celui qu'on vient d'entendre là, on se dit que le miracle, c'est de faire jouer 100 musiciens ensemble. Et c'est le miracle que vous accomplissez, vous, en tant que chef. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs, qu'on dise chef, qu'on dise conducteur, comme disent les Anglais ?
J'aime beaucoup le mot conductor, oui, parce que dans chef, il y a un côté caporaliste qui me choque un peu. Moi, j'ai été dans l'orchestre pendant 10 ans. Vous savez, j'avais un autre métier où j'étais instrumentiste et où j'ai côtoyé un grand nombre de musiques les plus diverses les unes que les autres. Et on a souvent été sous la direction de chefs dictateurs, de chefs démiurges, voilà, qui imposaient leur volonté. Alors, je pense que, bon, très franchement, les musiciens, nous avons une fonction, nous sommes collègues. Donc, le mot chef, il y a un côté... Puis alors, j'ai souvent envie, quand on m'appelle chef, j'ai horreur de ça, j'ai envie de dire, vous le voulez saignant ou à point ?
Mais vous dites conducteur, disent les Anglais. Vous avez employé une fois le terme aussi remorqueur. Au fond, non, le chef... Non, c'est pas vous.
C'est pas moi, non. C'est sur moi de mes illustres collègues.
Avait dit, finalement, un chef, plus qu'un conducteur, c'est un remorqueur. Il tire les musiciens derrière
lui. En tout cas, c'est un accoucheur. C'est un accoucheur de couleurs, c'est un accoucheur de rythme, c'est un enquêteur, c'est quelqu'un qui... En effet, doit dépeindre des paysages, s'immerger dans la pensée d'un compositeur. On connaît assez peu les arcanes qui conduisent à la direction d'orchestre. On n'en parle pas beaucoup, finalement, en plus dans notre pays, mais le chef d'orchestre, l'orchestre, il est ce que son chef lui demande et ce qu'il fait. Il faut avoir une pensée du son et il faut traduire cette pensée après une conception et essayer de se glisser dans les habits du compositeur en faisant en sorte qu'il ne soit pas trop grand pour vous.
Vous avez dit, je crois que cette fois-ci c'est vous aviez dit que vous vouliez être chef déjà à l'âge de 12 ans. Vous l'êtes devenu à 30 ans. Pourquoi chef ?
Écoutez, j'ai eu la révélation de cette formidable fonction, si j'ose dire, en voyant à 12 ans, lors de mon premier concert symphonique, véritablement, j'ai vu, c'était Georges Sébastien qui déchaînait des tonnerres, qui calmait des tempêtes, c'était Wagner. Je me suis senti ravi, comme on peut l'être, de son propre univers. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire de pouvoir agir sur la matière comme un sculpteur. Je voyais avec des petits gestes, des grands gestes. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je voudrais faire, c'est un accomplissement que je n'ai pu réaliser qu'après toutes mes humanités musicales dans mon autre métier.
Et puisqu'on parle d'enfermement, je crois qu'il vous est arrivé de jouer dans des prisons comme Johnny Cash ou les Sex Pistols. Alors quand on leur amène de la musique symphonique, ça leur fait quoi ?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Je crois que j'ai été le premier chef en France à amener un grand orchestre il y a 40 ans, en effet, dans des lieux de détention, où mon but, c'était d'humaniser un peu ces lieux de souffrance, comme à l'hôpital aussi, où ça a été. Et si vous voulez, à un moment donné, on a demandé à des détenus « qu'est-ce que vous voudriez entendre ?» Et puis, ils ont dit « Mozart ». Alors, j'étais absolument stupéfait. Et pourquoi Mozart ? Parce qu'on parlait de l'anniversaire de Mozart, et disait « on nous a dit que Mozart c'était le plus grand, alors on voudra en entendre. » Alors on avait joué des œuvres de Mozart, mais j'ai offert tous les ans pendant 40 ans deux concerts pour les hommes, un pour les hommes et un pour les femmes, et avec le désir de transmettre une part d'humanité qui malheureusement fait défaut dans certains lieux.
Alors eux, c'était Mozart, vous c'est souvent Malheur, encore une fois c'est du Malheur, vous avez Malheur, le compositeur.
En cas de Malheur, hein.
Le compositeur, vous lui avez consacré plusieurs disques, alors pourquoi Malheur ?
Alors je vais vous dire une chose, ma première passion, la première de tout, c'est la musique française. Bon, la musique française, c'est la clarté, l'élégance. Et comme m'avait dit Karl Böhm, qui était un grand chef autrichien, quand je l'avais rencontré à l'Opéra de Paris, il m'avait dit « Ah, fou les Français, quand vous foulez, mais vous ne foulez pas souvent, vous êtes les meilleurs pour traduire Mozart, Mozart et votre musique qui part de la clarté jusqu'à la transcendance avec une analyse très fine. » Enfin, bon, bref, il m'a fait tout un chapitre. Et évidemment, malheur pour moi, après la musique française, Ravel, Debussy, Wagner, même Varèse, j'allais dire, et aussi Boulez, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais cette musique-là, en effet, elle permet, si vous voulez, au fond, de réaliser ce que disait le philosophe Solon, quand on lui demandait une définition de la musique en général, l'art français, enfin l'art en général, en trois mots. Rien de trop. Or, il faut se méfier de la redondance, il faut se méfier du maniérisme, il faut se méfier de la surinterprétation, mais aussi il faut comprendre si la musique s'intéresse à l'intelligence affective, et Mahler en est le plus digne représentant, qui a rencontré Freud, auquel il a confié ses états d'âme, et qui, pour moi, est en musique ce que Stefan Zweig est en littérature. La description d'un passé qui aurait été heureux face à la nostalgie d'une période où on a connu les grandes conflagrations. Pour moi, ils sont très très liés. Vous savez, la musique des mots d'un côté et la poésie de la littérature de l'autre.
C'était un extrait du Chant de la Terre de Mahler d'Astrid von der Erde, enregistré en concert par Jean-Claude Casadesus à la tête de l'Orchestre National de Lille. Ça sortira le 11 décembre chez Évidence et le 18 janvier, vous serez à la Philharmonie.
Je serai à la Philharmonie avec l'orchestre du conservatoire que je retrouve avec une grande joie. Vous connaissez mon attachement à la transmission auprès des jeunes et j'ai toujours eu une très très grande gratification de pouvoir faire de la musique avec des talents en devenir. Et c'est un beau programme qui comprendra Schumann, Debussy, Ravel et Beethoven.
Et en plus, vous sortirez du confinement.
Et j'espère pas trop déconfit.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Je vous souhaite une très belle journée sur Europe 1. Juste après le flash, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmons. Votre invité, Mickaël.
Bonjour, eh bien c'est Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, le patron des patrons. Comment retrouver la confiance quand il faut endurer et le confinement et la déprime des ménages ? Est-ce que le vaccin sera le cadeau de Noël pour l'économie ?
Merci, Mickaël. Bonne émission.
Merci.